mais je prie aussi pour elle. Peut-être que si vous êtes venu cet après-midi, c'est pour écouter cet enseignement multiséculaire de l'Église, pour l'entendre vous réconforter. Je voudrais ici vous rappeler d'abord par toute une série d'exemples cette foi des chrétiens dans la possibilité qu'ils ont de s'aider les uns les autres par leur prière et leur générosité. Quelques exemples parmi des milliers d'autres. Tolère, le dominicain strasbourgeois du XIVe siècle, revient souvent sur la possibilité qui nous est donnée de participer au mérite des saints. « Si j'aime le bien qui est en mon prochain, dit-il, plus qu'il ne l'aime lui-même, ce bien est à moi plus qu'à lui. Si j'aime en saint Paul toutes les faveurs que Dieu lui a accordées, tout cela m'appartient au même titre qu'à lui. Par cette communion, je puis être riche de tout le bien qui est au ciel et sur la terre, dans les anges, les saints et tous ceux qui aiment Dieu. » Vous sentez que beaucoup de nos tentations de jalousie seraient sapées à la racine si nous pensions plus souvent à ce mystère. Lorsque vous avez l'impression d'être bien pauvre par rapport à ce que font les autres autour de vous, au lieu de chercher la petite bête, au lieu de dire « Ah, cette personne-là est très généreuse, mais ce n'est pas gêné avec l'éducation qu'elle a reçue, c'est tout naturel. Cette personne-là s'occupe beaucoup des autres, mais elle le fait un peu pour se faire remarquer. Oh là là, combien de conversations qui commencent par une louange se terminent par une critique. Tant il est vrai que nous avons du mal à accepter purement et simplement la beauté, la générosité de ceux qui nous entourent. Si nous étions bien persuadés que cette richesse spirituelle de notre prochain nous appartient, que c'est un bien de famille, au lieu de penser à le dénigrer, on penserait à l'offrir à Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous faisons tous les jours à la messe. Par le Christ, avec lui et en lui, nous lui offrons toute la générosité du monde. Et le Seigneur, en nous voyant offrir avec joie la générosité des autres, nous l'attribue comme un mérite. Nous ressemblons un peu alors aux ravis de la pastorale des Santons de Provence, qui se contentent d'admirer ce que font les autres. « Ô Seigneur, regarde le meunier qui est en train de travailler, un sac de farine sur la tête, un sac de farine sous le bras gauche, un sac de farine sous le bras gauche, sous le bras droit. Seigneur, c'est merveilleux. » Bien sûr qu'il ne s'agit pas de tomber dans le quiétisme, de se tourner les pouces pendant le carême, de ne faire aucun effort en se contentant d'offrir la générosité des autres. Mais, disait déjà saint Augustin à une veuve, à la veuve Broba, qui se plaignait de ne plus pouvoir jeûner comme au temps de sa jeunesse, « Si tu offres à Dieu les jeûnes que les autres peuvent encore faire, tu participes au mérite des autres. » Léon Blois, pour prendre un exemple plus récent, Léon Blois disait « Tel mouvement de la grâce qui me sauve d'un péril grave a pu être déterminé par tel acte d'amour accompli ce matin, ou il y a 500 ans, par un homme très obscur, de qui l'âme correspondait mystérieusement à la mienne et qui reçoit ainsi son salaire. » Paul Claudel a beaucoup chanté dans son théâtre ou dans sa prose cette mystérieuse communication entre les chrétiens. Par exemple, dès le début de l'annonce faite à Marie, Anne Vercors atteste « Je ne suis pas seul. Les voilà tous en marche avec moi, toutes ces âmes, les uns qui me poussent et les autres qui m'entraînent et les autres qui me tiennent par la main. » Et en préparant cette conférence, je pensais à une lettre que je recevais il y a quelques mois d'une jeune qui m'écrivait « Quelle joie pour le petit bateau de pouvoir naviguer en pleine mer avec la certitude qu'il est bien sur la bonne route. Cette route l'attirait tellement qu'il aurait été bien malheureux de devoir rester à quai. Quelle grande joie confuse aussi pour le petit bateau de savoir qu'il a un tout petit peu entraîné innocemment toute une flotte. » Car je lui disais que chaque fois qu'elle était fidèle à la spiritualité du sourire qu'elle essayait de vivre, elle permettait à d'autres bateaux de l'est de la flottille de se perdre aussi dans la joie de Dieu. Toute âme qui s'enfonce en Dieu s'enfonce, enfonce, entraîne avec elle d'autres âmes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bernanos, le romancier Bernanos, a été un grand chantre de cette communion des saints. dans ses livres. Souvenez-vous, dans le journal d'un curé de campagne, le docteur Delbande se suicide à l'orée d'un bois. On le retrouve inanimé un matin, tout près de sa carabine de chasse. Mais le romancier suggère qu'étant donné que la veille, que la nuit précédente, le curé d'Ambricourt a échappé à la tentation de désespoir, a surmonté la tentation de désespoir, le docteur Delbande, son ami, sera sauvé de la mort éternelle par la générosité de son ami, le curé. Et dans Dialogue des Carmélites, on voit mourir au début de la pièce la vieille prieure. Elle meurt dans la déréliction la plus totale. Et la communauté s'étonne qu'une religieuse aussi généreuse ait comme peur de mourir et soit tentée, elle aussi, par le suicide. Mais, sœur Constance, le ravi de la communauté, celle qui incarne la spiritualité de la joie chez Thérèse, tire elle-même la leçon de l'histoire. « Pensez à la mort de notre chère mère, dit-elle à sœur Blanche. Qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir, qu'elle saurait si mal mourir ? On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort, comme au vestiaire on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre, une mort pas à la mesure de notre prieure, une mort trop petite pour elle. Elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. Ça veut dire que cette autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et s'y sentir confortable. Peut-être même qu'elle en tirera gloire. Voyez comme je suis à l'aise là-dedans, comme ce vêtement fait de beaux plis. » Et avec innocence, elle conclut, « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres. » Autrement dit, si à la fin de la pièce, sœur Blanche, de la force qui n'est que faiblesse, elle porte bien mal son nom d'aristocrate, si sœur Blanche de l'agonie du Christ monte avec une facilité étonnante sur l'échafaud, c'est parce qu'une autre au début de la pièce sera morte dans la difficulté. La vieille prieure meurt difficilement pour que celle qui devait mourir difficilement meure très facilement. On ne meurt pas seulement les uns pour les autres, mais les uns à la place des autres. Jean-Louis Barrault a exprimé un jour avec bonheur cette mystérieuse solidarité. Le père Carré lui avait confié que sa mère était devenue aveugle. Le comédien demande alors à l'aumônier des artistes, le père Carré, quelle répercussion cette cécité avait eue sur lui. Une telle épreuve, répond le père Carré, a développé ma sensibilité. Si elle m'a fait connaître par là certaines souffrances, elle m'a permis aussi de comprendre bien des êtres et d'entendre leurs cris. Alors Jean-Louis, si je comprends bien mon père, elle était aveugle, votre maman, pour que vous ne soyez pas sourd. Il prononça cette parole inoubliable en masquant par un sourire son émotion. Nombreuses sont les âmes qui de bon cœur ont pris un jour en charge un de leurs frères et ont offert pour lui au Seigneur moult prières et sacrifices. Un prêtre, et je viens d'apprendre ce matin même qu'il est au plus mal. Un prêtre entend un jour un camarade de Sana lui confier « Je ne peux plus réciter mon Notre Père. C'est impossible. C'est trop de souffrance. » Alors spontanément, ce prêtre lui répond, sans trop réaliser d'ailleurs les conséquences que cette parole allait avoir dans sa vie, « Je te comprends, mon pauvre vieux. Laisse. Le Notre Père, je le dirai à ta place. » Une fois rentré dans ma chambre, écrit-il, ce « je le dirai à ta place » s'est imposé à mon esprit. Je n'arrivais plus à m'en détacher, et j'ai su, non pas d'un savoir abstrait, mais d'un savoir viscéral, que la souffrance de ce pauvre type était aussi la mienne, et que j'avais à la vivre et à l'offrir comme la mienne. Nos deux souffrances étaient inséparables, elle et toutes celles de ce sana, elle et toutes celles de cette station climatique. Par la suite, au long des années, cette idée force s'est emparée de ma vie. Oh, je suis encore très lâche, très égoïste, mais je sais que lorsque je n'y suis pas fidèle, je passe à côté du vouloir profond de Dieu. Et ce fut vraiment toute la vie de ce prêtre malade qui devient presque complètement sourd, qui a beaucoup de mal à communiquer avec les autres, mais qui sait tout au fond de lui-même qu'il est en train de sauver ses frères. Un dernier exemple contemporain, le père Jacques Leuve, ce magnifique apôtre de notre siècle qui s'est converti à 21 ans en voyant atterrir sur son balcon de sanatorium quelques flocons de neige, quelques cristaux de neige à 21 ans. J'aime l'histoire qu'il raconte, qu'il a raconté dans Panorama, puis dans son livre de témoignages qu'il a écrit à l'occasion de ses 80 ans. Sa maman lui a dit un jour, « Jacques, tu me ferais bien plaisir en allant à Rome d'aller voir une religieuse que j'ai connue dans mon enfance, nous étions dans le même pensionnat, et qui est en train de terminer ses jours là-bas, dans la ville éternelle. Tu me ferais bien plaisir d'y aller et de lui transmettre mon bon souvenir. » Pour faire plaisir à sa maman, le père Leuve y est allé. Et cette religieuse lui a confié, « Mon père, j'ai envie de vous faire une confidence que je n'ai jamais osé faire à votre mère. Lorsque j'ai appris que vous veniez de naître, je me suis dit que le petit Jacques ne pourrait avoir aucune éducation religieuse puisque sa maman était incroyante. Alors, dans ma ferveur de jeune novice, vous ne pouvez pas vous imaginer, mon père, comme j'ai prié pour vous. Quand nous arriverons au ciel, nous nous apercevrons que tout l'apostolat du père Leuve, que les livres magnifiques qu'il a écrits, que l'école de la foi qu'il a fondée à Fribourg, la mission ouvrière Saint-Pierre-Saint-Paul qu'il a fondée et qui a essaimé à travers le monde, tout ça s'enracine sans doute dans la prière de cette humble religieuse dont l'histoire de l'Église ne retiendra pas le nom, mais qui aura prié pour que le petit Jacques se convertisse. Et quand je fais visiter la basilique de Lisieux, que je me trouve sous le dôme de la basilique qui évoque toute la gloire de Thérèse, j'aime rappeler que cette basilique repose sur 120 piliers qui vont chercher le calcaire à 20 mètres en dessous du sol. C'est une basilique construite comme Montmartre sur pilotis. Et j'évoque ce que dit Thérèse en juillet 97, quelques mois avant de mourir. Je pense que toutes les grâces que j'ai reçues, je les dois sans doute à une toute petite âme qui aura prié pour que je les reçoive. Quand j'arriverai au ciel et que j'irai saluer Sainte Thérèse, je m'attends à ce qu'elle me fasse un clin d'œil et qu'elle me dise, tu vois, c'est moi qui ai été entouré de gloire, mais il y en a encore une peut-être plus sainte que moi qui a prié pour que j'arrive. Nous serons obligés de revoir toute notre histoire de l'Église en arrivant au ciel. Ça se fera tout seul, notez. Nous n'aurons pas de difficulté à faire ce travail. Mais nous nous apercevrons que derrière l'histoire apparente, il y a une histoire plus réelle, plus forte. Comme dit Patrick de Ruffet, se développent tout au long du temps deux histoires, à la fois distinctes et emmêlées, comme l'ivraie et le bon grain. L'une apparaît comme une sorte de théâtre, où les dominateurs posent en gros plan des actes politiques éphémères. L'autre est au contraire faite d'une trame invisible que tissent quotidiennement les humbles, avec de modestes petits actes de foi, d'espérance et de charité. Quand les historiens futurs écriront l'histoire des années 89-90, on ne manquera pas de signaler les causes de la débandade du marxisme dans les pays de l'Est, et les historiens auront raison de le faire, mais leur échappera toujours l'importance de tous ceux qui auront prié là-bas, en Russie, en Roumanie, en RDA, pour que la violence cesse. Et cette prière a aussi son poids dans le plan général du monde.